L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez L'Épluche Livre. Une émission spéciale aujourd'hui, car nous avons la joie de collaborer pour la seconde année consécutive avec le Pass Culture Occitanie. Donc cette collaboration prend forme, prend vie durant le temps fort, l'actu en vrai. Et la question d'aujourd'hui est: quel est le rapport des jeunes avec les médias ? Pour discuter de ce sujet passionnant, j'ai la chance d'être accompagnée de Yanis. Bonjour Yanis.
Bonjour.
De Juliette.
Bonjour.
Et Ainoa.
Bonjour.
Donc, vous êtes trois jeunes, trois vrais. On ne fait pas semblant. Quel âge vous avez, Yanis ?
Moi, j'ai 19 ans.
Ouais.
Moi, j'ai 20 ans.
Et Ainoa ?
Et moi, j'ai 19 ans aussi.
Ok. Et donc, vous avez répondu à cette offre Pass Culture parce que vous êtes curieux. Dites-moi, Juliette.
Alors, moi, je suis en études de journalisme.
Ok.
Licence de sciences du langage à Paul Valéry et en même temps à l'ESJ Pro.
Et donc c'est dans une volonté de découvrir un peu les métiers de la radio.
Oui, pour... voilà, découvrir les coulisses parce que ça pourrait éventuellement m'intéresser de faire de la radio.
De manière professionnelle.
Voilà.
Ok, trop bien. Bah, du coup, autant se présenter puisque ça serait plus logique en fait. Ainoa, donc, comme Juliette, on va démarrer de cette question-là. Pourquoi cette présence ici parmi nous sur cette table sur cette table ronde?
Ouais, bah moi du coup c'est pareil que Juliette, je suis dans la même licence. Mmh. Bah l'année dernière j'étais à Dijon, je suis à Montpellier que depuis septembre, mais je suis pareil, je suis en école de journalisme et le but c'est de découvrir les coulisses et puis comment ça se passe concrètement.
Ok, donc deux futurs pros des médias et de l'information, ça va être trop bien. Et vous Yanis?
Bah moi c'était par simple curiosité, ça m'a toujours un peu intéressé mais de loin. Et quand j'ai vu cette offre, je me suis dit que c'était l'occasion de un peu mettre le nez dedans et voir comment ça se passait.
Donc c'est la radio qui vous intéresse ou le métier de journaliste ?
Un peu les deux.
Un peu les deux ?
Je vais voir un peu les deux,
oui. Ouais. Et vous écoutez souvent la radio ?
Pas souvent, j'en écoute de temps en temps pendant les trajets en voiture ou choses comme ça.
Ok. Quels sont pour vous, ou quel est pour vous, s'il n'y en a qu'un, le meilleur moyen de vous informer sur l'actualité ? Juliette ?
Moi, je pense que c'est de regarder le JT, le midi ou le soir, parce que toutes les infos sont récapitulées dans une seule et même émission.
Ok.
Donc, c'est...
Ça se justifie très bien.
Voilà, c'est pratique.
Donc, le JT à la télé ?
Exactement.
Ouais, ouais. Donc au national, pas au régional ?
Au national, oui.
Ok. Et ça, c'est quelque chose que vous faites tout le temps ?
Oui, j'essaye, oui. En école de journalisme, on nous le demande, donc on a des QCM toutes les semaines.
C'est vrai ?
Oui.
Incroyable. Et vous, Ainoa ?
Bah moi c'est pareil, je regarde le JTTF hein, tous les soirs.
D'accord.
Et sinon, bah avant quand j'étais chez mes parents le week-end, on regardait le JT régional les midis.
Ok.
Et c'est vrai que c'est une habitude que j'ai prise, depuis longtemps avec mes parents.
D'accord, donc là il y a un ancrage familial carrément, une relation aux médias assez forte de ce côté-là.
Oui, c'était vraiment un rendez-vous, l'heure du JT, toute la famille, c'est souvent quand on mangeait d'ailleurs.
D'accord.
Et voilà.
Ok, donc c'est de beaux souvenirs d'enfance aussi pour vous et c'est quelque chose qui se transmet en fait finalement,
oui.
C'est ça ? Donc l'information par la télé via le JT. Et donc vous Yanis, comment est-ce que vous allez à la pêche à l'info ?
Je suis d'accord aussi, mais sauf que moi je regarde pas la télé, donc ça va plus être sur les réseaux sociaux, je vais suivre des comptes d'information.
Okay.
Et ça permet d'avoir l'information directement, instantanément.
Ok. Et quel compte vous allez suivre particulièrement ?
Oula, j'ai pas forcément les noms.
Ouais, c'est
un peu...
Pas... En fait, ma question, ma deuxième question suite à ça, c'est surtout comment vous choisissez quel compte suivre sur les réseaux sociaux ou bah, comme à la télé, hein, de toute façon, il y a un peu à boire et à manger niveau information.
Bah, je vais trier ça en voyant d'abord les sujets qui sont traités et aussi si les valeurs que porte le compte me correspondent, peut-être même aussi le bord politique des fois, enfin ce genre de choses.
D'accord.
Et c'est comme ça que je vais sélectionner les comptes que je vais suivre et ceux que je ne vais pas suivre.
D'accord. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc on va parler d'informations qu'on filtre par des valeurs personnelles, donc des valeurs qui sont politiques, qui sont aussi des valeurs de vie, je suppose, de tous les jours. Est-ce que vous avez aussi cette approche-là, Juliette ?
Oui, moi, c'est pareil. Je vais aussi... choisir un média, surtout sur les réseaux sociaux, en fonction du journaliste qui représente ce média. Mmh. Parce que maintenant, on voit qu'on suit plus seulement un média, mais le journaliste lui-même, qui devient une figure...
Ça, c'est intéressant. Donc, il y a une figure d'exemplarité, d'autorité ou de charisme ?
Moi, je dirais plus exemplarité. Comme c'est un métier que je veux faire, je suis surtout des journalistes que j'admire, en fait.
D'accord. Ok, et si je vous dis Salomé Sake ? Ah ah !
Je la suis pas.
D'accord.
Après, de nom, je sais qui c'est, mais okay. J'en sais pas plus.
Ok, et vous, Ainoa, comment est-ce que vous vous positionnez ? Comment vous filtrez cette info que vous recevez, donc essentiellement par la télévision, bien sûr, vu que vous nous l'avez expliqué ?
Je regarde aussi sur les applications sur mon téléphone. Enfin, je sais que je suis abonnée à Mediapart,
d'accord.
Justement grâce au Pass Culture.
Ok.
Et Libération aussi.
Ok.
Aussi grâce au Pass Culture, du coup.
Donc là, c'est de l'information du journal, donc écrite et numérique uniquement, pas papier.
Ouais, non, pas papier.
Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit encore le journal papier, à part moi ?
Alors moi du coup oui,
ah, un peu,
une fois par semaine on va dire, parce qu'en fait je suis correspondante locale de presse pour Midi Libre dans le sport, et vu que du coup souvent les dimanches je vais couvrir des matchs, mes articles paraissent dans le journal du lundi, vu que les pages du sport sont les lundis, et donc vu qu'à l'ESJ ils nous mettent à disposition le Midi Libre, je le prends tous les lundis du coup.
D'accord, et donc vous le lisez ?
Oui, ça me permet aussi de voir un petit peu l'actualité... De Montpellier et du département.
Alors ça, c'est intéressant comme sujet, puisque à Divergence, donc, c'est une radio associative locale. On l'a vu quand vous êtes venu, on a fait une petite introduction au métier de la radio, à l'histoire de cette radio plus spécifiquement. L'information, on l'a dit, se passe au niveau national, mais se passe aussi au niveau régional. Est-ce que, Yanis, vous vous intéressez donc à l'information de votre région, de Montpellier ?
Comme je l'ai dit, moi, de base, je viens pas d'ici, donc avant, oui, c'était le cas, sauf que maintenant, enfin, j'ai pas vraiment trouvé de journaux ou quelque chose comme ça qui parle de l'actualité sur Montpellier, donc souvent, ça va être sur des vidéos que je tombe ou quoi.
Vous vous êtes installé quand à Montpellier ?
En mi-novembre.
Mi-novembre, oui, donc c'est très récent. Mais est-ce que vous suivez encore des journaux d'actualité de votre ville donc de Vaison-la-Romaine, hein, si je peux dire.
oui, mais je suis plus vraiment à l'affût. C'est plus ma mère qui m'envoie souvent ce qui se passe.
Est-ce que c'est une manière de garder le lien, quand même, d'avoir ces informations-là, ou plus du tout ?
Oui, parce que je trouve ça quand même important de savoir ce qui se passe dans ma ville. Donc, ouais, suivre.
Oui, il y a un attachement, là aussi, émotionnel et familial, quoi.
Ouais,
c'est intéressant. Ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parte sur ces sujets-là qui sont quand même, du coup, très intimes, quoi. L'information, ce n'est pas juste un flux d'informations. Ça se trie, il y a un esprit critique qui se travaille. Et puis, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de vous apprendre, visiblement. Ça, c'est trop chouette. Comment vous réagissez face à de potentielles fausses informations ? Est-ce que vous arrivez à le détecter ? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas forcément de fausses informations, Juliette ?
Alors, c'est vrai que maintenant, je remarque plus facilement les fausses informations parce qu'on nous l'a appris, en fait. Et donc, du coup, quand je vois une information, je ne vais pas tout de suite y croire, mm-hmm. en fonction du média, mais je vais aller vérifier, voir d'autres sources... pour voir si ce qui est dit est vrai.
Ouais, donc vous croisez les sources.
Je croise les sources.
Et ça vous est déjà arrivé de réussir grâce à ça à débunker, pardon, j'aime pas trop ce mot, mais j'en ai pas d'autre qui me vient.
Oui, ça m'est déjà arrivé. Récemment, avec l'actualité en Israël, où on disait que Netanyahou était mort.
Ah oui, ah, je ne l'ai pas vu passer celle-là, pas mal.
Donc oui, j'ai croisé les sources et en fait, je me suis rendu compte que c'était faux.
Ok. Et vous, Inoua ?
Bah moi c'est pareil, enfin je trouve que après sur les réseaux, notamment sur TikTok, en ce moment il y a vraiment beaucoup d'IA qui circulent.
Ah c'est chouette ça.
Ce qui fait que on s'en rend vite compte quand même, enfin personnellement, enfin c'est peut-être aussi lié au fait qu'on soit en école de journalisme, mais je sais que on va vite se rendre compte quand même que il y a des choses qui sont pas cohérentes. Mmh. Et bah pareil, j'ai aussi enfin j'ai toujours ce réflexe de croiser les sources avec différents médias.
Oui, alors je disais, c'est chouette ça, c'est pas l'IA qui est chouette, du moins c'est pas l'IA qui est utilisée en tant que faux journaliste. Par contre, ce qui est chouette, c'est que le sujet arrive sur la table, parce que en librairie, effectivement, dans les métiers artistiques de création littéraire, graphique, on a des problèmes avec l'IA générative, puisqu'on a des problèmes de droit d'auteur. Quels sont selon vous, Ainoa, les problématiques que peuvent générer l'IA par rapport à l'information ?
Bah, ça va être surtout les fausses informations, ça va...
C'est comment, qu'est-ce qu'une fausse information IA, en fait ? Comment ça se présente ? Comment on peut la reconnaître ?
C'est souvent des informations qui ont pour objectif de créer du buzz, en général. C'est quelque chose qui va vraiment interpeller, ce qui fait que les gens vont souvent rester sur le contenu, sur TikTok, etc. Donc, après, on connaît les algorithmes TikTok, ça va faire que ça va être...
L'attention qui est captée.
Oui, ça va être donc exposé après à de plus en plus, à un plus grand échantillonnage de personnes. Mmh. Et c'est souvent des informations, bah, comme je disais, un peu choc, ce qui fait que ça interpelle, on reste dessus. Mais après, je trouve qu'il y a quand même souvent un manque de cohérence dans les informations, dans ce qui est proposé en tout cas.
D'accord, donc vous le repérez parce que c'est trop choc, c'est trop voyant. Et c'est trop diffusé, en fait, à grande échelle, trop rapidement. C'est ça, les indicateurs, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Ouais. Est-ce que vous rejoignez, Johan, sur ces indicateurs
Yanis.
Oh là là. Est-ce que vous rejoignez Ainoa sur ces indicateurs IA?
Oui.
Oui.
Oui, oui. Des fois, ça... Il y a aussi des choses qui font que, par exemple, il y a une information qu'on considérait vraie et qui, au final, s'avérait être fausse. Que l'IA a peut-être pas pris en compte la mise à jour, donc elle est toujours sur l'ancienne version de l'information, et ça fait que oui, des fois on peut être induit en erreur sur une info.
Donc on peut conclure cette première partie d'émission. Les journalistes ont encore de longues années de métier, les métiers de la radio aussi, et heureusement qu'il y a un regard critique, un esprit critique qui se construit depuis toujours, en fait, hein, dès l'enfance, je pense. Je vous laisse écouter, chers auditeurs, le titre que les jeunes participants à cette émission ont choisi pour nous. Thank you.
écoutez L'Épluche Libre. Je suis en compagnie de Yanis, Juliette, Ainoa et Adrien qui a choisi le morceau que vous venez d'écouter. Pourquoi ce choix musical, Adrien ?
J'ai fait ce choix parce que c'est un beatmaker qui est colombien,
ouais,
que j'apprécie énormément. D'ailleurs, il vend des drum kits, je lui en ai acheté un à 30 euros.
D'accord.
Très, très qualitatif niveau sonorité.
Donc, il y a une appétence pour le son, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
D'où ta présence
oui,
pour la
ça.
Radio.
C'est
ok, bah, merci beaucoup, merci pour ce partage. On a dû couper, je suis désolée, du coup, ça a duré combien ? 10 minutes, c'est ça ?
Généralement, ils postent en ce moment beaucoup sur des prods de 10 minutes.
Ouais. Est-ce que tu peux nommer l'artiste ?
Il s'appelle Eddie Mouglé, et du coup, le titre du son, c'était Eddie on the set 64. Voilà, pour ceux qui veulent l'information.
Ok, bah, merci beaucoup, on relaiera aussi sur le podcast. Merci beaucoup pour ce choix. On retrouve notre sujet initial, donc, qui est la manière dont les jeunes se positionnent face à l'information, face au flux d'informations, la manière dont ils peuvent gérer ça. On a parlé esprit critique, on a parlé IA, on a parlé sources d'informations. Et on a parlé aussi valeurs, valeurs politiques, éthiques et morales. Ça, ce sont des sujets qui ont été mis sur la table pendant la première partie d'émission par mes invités, donc Yanis, Juliette et Ainoa. Moi, je voulais juste démarrer cette seconde partie. Vous m'avez parlé d'ancrage émotionnel, d'ancrage familial face aux informations, du moins qui était source, en fait. Les informations sont source de moments, en fait, assez intimes. Est-ce que vous ressentez quelque chose qui me semble quand même assez d'actualité, comme un trop-plein d'informations, et notamment des informations que vous n'auriez peut-être pas aimé avoir entre vos mains ? Ainoa ?
Un trop plein d'informations, oui, c'est sûr, parce que je pense que c'est surtout lié aussi au fait que les téléphones, les réseaux sociaux, on est sans arrêt envahi déjà de notifications. Quand on va sur les réseaux, on est envahi aussi d'informations de partout. On ne sait pas toujours du coup si elles sont vraies ou pas.
Mm-hmm. C'est ce qu'on, oui, ce vous croisez les sources donc pour savoir d'où ça vient et est-ce que c'est vrai.
Ouais. Et c'est vrai que je trouve que, enfin, parfois, même quand j'en discute avec certaines personnes, revient toujours cette question de l'information, quand il y en a trop, ça devient fatigant et on a, au bout d'un moment, même plus envie de regarder les informations parce que souvent, c'est des informations qui vont être un petit peu négatives et donc qui vont un petit peu faire chuter le moral et... Ouais, je pense qu'on assiste quand même à un trop-plein d'informations. C'est pour ça que c'est bien aussi de regarder les JT le soir. Enfin, ça permet quand même de condenser un petit peu ce trop-plein d'informations et de garder l'essentiel.
D'accord. Juliette, vous êtes d'accord avec ça ? Vous faites confiance aux journalistes pour cibler la bonne information à avoir au moment T ?
Oui, je pense qu'il faut avoir confiance en les journalistes. Après, il y en a à qui on fait plus confiance qu'à d'autres, mais c'est normal, ça dépend de nos valeurs, comme on l'a dit, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, parfois même qui peuvent nous choquer. Donc, il faut savoir prendre du recul et savoir stopper aussi l'information quand ça nous impacte émotionnellement et qu'on se sent pas bien.
Ok. Yanis, est-ce que vous avez aussi ce sentiment que l'information peut être mauvaise pour le moral, peut être quelque part, peut aller à l'encontre finalement de la démarche première qui est de s'ouvrir sur le monde ?
Oui, et surtout en ce moment, parce qu'il y a énormément de conflits dans le monde. Donc on voit beaucoup d'images un peu choquantes, beaucoup d'informations qui font pas forcément sourire. Et c'est souvent. Et notamment ceux qui, du coup, comme moi, suivent l'information via les réseaux sociaux, où on a l'information quasiment à la seconde où ça arrive. Mm. Et on est face à ça quasiment toute la journée, selon si on regarde beaucoup, si on est beaucoup sur nos écrans ou quoi. Oui, on peut être vite submergé par les informations qui sortent.
Mm. Et donc, dans ce cas-là, comme le proposaient Juliette et Ainoa, il faut faire confiance donc aux professionnels, aux journalistes. Est-ce qu'il y a d'autres métiers de l'information que vous connaissez ou sur lesquels vous avez une curiosité ? Des métiers dans la radio ou... Après, il y a différentes manières d'être journaliste, je présume ?
Oui, comme on l'a dit, il y a des journalistes radio, télé, etc. Chacun choisit... la manière dont il veut s'informer. Après, d'autres métiers. Enfin, le journalisme, justement, c'est le spécialiste de l'information. Donc,
donc journaliste, on parle de l'information, de l'actualité immédiate. Après, on parlait bien sûr du quotidien, des hebdomadaires. Est-ce que vous pensez que lire des essais, par exemple, c'est une manière de se tenir informé sur le monde? Est-ce que c'est aussi une source d'accès à l'information que de lire de la non-fiction que vous avez empruntée en bibliothèque ou en librairie?
Moi, je considère ça plus comme de la culture générale que de l'actualité.
D'accord. Et pourquoi?
Parce que l'actualité, pour moi, c'est au jour le jour. Et par exemple, un essai que je vais lire, il est pas forcément, il peut dater de plusieurs années auparavant. Il n'est pas forcément actuel, quoi.
Ok. Ainoa, vous rejoignez cette analyse?
Oui, en termes d'actualité, oui. Enfin, pour moi, c'est aussi au jour le jour. Après, je sais que, en fait, là, je suis aussi à une prépa, en fait, qui prépare au concours des écoles de journalisme. Et il y a certains de nos professeurs, c'est en histoire des relations internationales, je crois, qui sortent régulièrement des essais, notamment là sur la guerre en Iran. Parce que c'est souvent, la guerre avec Israël, c'est souvent des guerres qui ont commencé depuis
très longtemps.
Très, très longtemps.
Ce qui se passe en Afghanistan aussi.
Exactement. Et du coup, ce qui fait que, ils sortent des ouvrages un petit peu remis à l'actualité avec ce qui se passe ces derniers temps. Et je pense que de les lire, ça permet aussi d'avoir le contexte de tout ce qui s'est passé avant et de comprendre l'actualité.
Ouais. Donc, des auteurs qui sont parfois issus des sciences humaines, qui ne sont pas forcément journalistes, peuvent peut-être, après tout dépend la manière dont vous vous positionnez par rapport à la lecture aussi, mais peuvent peut-être vous amener à avoir ce regard, cette ouverture sur une actualité peut-être un peu plus longue, ou sur l'histoire, tout simplement, puisque, Yanis, est-ce que vous pensez que pour comprendre l'actualité qu'on lit aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, il faut connaître ce qui s'est passé un petit peu avant?
Oui, bien sûr. Il y a toujours un contexte dans lequel les conflits d'aujourd'hui, par exemple, ont démarré. Et c'est important de connaître pour mieux comprendre notre monde et pas faire d'erreurs.
Et comment vous faites quand vous avez justement une question comme ça? Là, vous apprenez qu'un pays entre en conflit avec un autre. A priori, ça sort pas du chapeau. Comment vous faites pour avoir l'information de l'antériorité de ce conflit?
Moi, souvent, je vais regarder des vidéos sur Internet qui parlent du conflit. Parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir plein de créateurs qui font des vidéos sur tout et n'importe quoi.
Donc des vidéos documentaires,
c'est ça? Oui, c'est ça, oui, par exemple. Et voir comment ça a démarré, qu'est-ce qui a fait que ça a démarré, et voir le type de guerre que c'est, enfin, choses comme ça, quoi.
Ok, donc le journalisme, les métiers de l'écrit, auteur, professeur, sciences humaines, les métiers de l'information, donc par les vidéos documentaires sur Internet, ça aussi, ça fait partie. Il y a des politiques, notamment. Est-ce que vous connaissez une chaîne d'information sur YouTube ou sur Steam, par exemple? Non? Hugo Décrypte, ça vous parle?
Oui,
par
exemple. Hugo Décrypte, ouais. Brut.
Voilà, Brut.
Le Parisien.
Le Parisien, mais oui, mais c'est vrai que les journaux classiques sont en ligne sans souci et c'est un vrai accès pour vous, ça vous facilite l'accès à ces journaux-là?
Oui, oui.
Ouais, qu'ils aient pris parti.
Arte aussi qui développe vraiment des sujets en profondeur, qui remet vraiment dans le contexte, qui nous permet de mieux comprendre l'actualité comme on l'a dit.
D'accord, donc tout un panel d'informations, de sources d'informations croisées pour comprendre ce qui se passe effectivement. Ok, donc ça c'est ce qui se passe aujourd'hui pour vous, c'est la manière dont vous placez par rapport à l'information. Maintenant, quel est pour vous l'avenir de l'information, Juliette?
Pour moi, l'information et le métier de journaliste aura toujours un avenir parce qu'on en aura, forcément besoin. Après, comme on l'a dit, l'IA, elle peut aussi faire disparaître des métiers et en créer de nouveaux. Par exemple, y a des journalistes qui se spécialisent dans l'IA maintenant. Et y en a d'autres qui disparaissent, comme par exemple le journaliste desk, donc qui travaille au bureau.
Qu'est-ce que c'est donc un journaliste desk? C'est un journaliste de bureau, c'est
voilà,
ça? Donc il ne va pas aller sur le terrain?
Il ne va pas sur le terrain et juste il transmet l'information, il récupère l'information sur les réseaux ou sur l'AFP et il la transmet directement.
Et ça, ça n'existe plus ou ça n'existera
bah,
plus.
Je pense qu'avec l'IA, ça peut devenir un métier qui peut disparaître.
Et donc, un nouveau métier à venir, d'après vous ? Quel serait-il ? Un métier imaginé, rêvé, parfait ?
Moi, j'ai pas d'idée.
Ainoa ?
Non, moi non plus. Enfin, je pense qu'avec l'IA, il n'y aura pas vraiment de métier rêvé. Comme le disait Juliette, le desk... Enfin, c'est surtout au niveau de la veille d'information, je pense que ça peut devenir vite automatisé.
Alors, du coup, ça va à l'encontre de ce que vous nous avez expliqué pendant une bonne partie de l'émission. L'esprit critique, l'IA, c'est quoi ? C'est un algorithme. Je ne me trompe pas, je ne suis pas informaticienne, mais on m'a expliqué, un informaticien est venu m'expliquer. Donc, cet algorithme, est-ce qu'il a vraiment un esprit critique ? Est-ce qu'il peut être programmé pour avoir un esprit critique, d'après vous ? Yanis ?
Oui, mais ce sera toujours quelque chose d'artificiel et pas forcément humain, même si l'IA va tout faire pour avoir vraiment l'approche la plus humaine possible. Mais ce sera toujours un algorithme, oui, comme vous l'avez dit.
Ouais.
Donc rien de vraiment très concret.
D'accord. Et vous, Ainoa, vous pensez que ça peut quand même, si on le calibre bien, si l'algorithme est bien pensé, parce que de toute façon, l'algorithme est un outil, faut pas se leurrer, c'est pas une, on n'est pas chez Asimov, c'est pas un robot sentant et pensant. Est-ce que vous pensez que l'IA peut vraiment être un outil efficace, sûr ?
Je pense peut-être vraiment sur le traitement pur de l'information factuelle, enfin, vraiment sur les faits. Après, on voit notamment avec l'IA Grok que je sais qu'elle avait sorti des propos nazis, fascistes, etc. Donc on sait que ça a quand même des dérives et je pense qu'il ne faut quand même pas trop compter sur l'IA si on veut à l'avenir avoir des informations fiables.
D'accord. Donc c'est un terreau potentiel, mais encore en pleine recherche, si je comprends bien. C'est bien ça ? Ok. Et alors, pour terminer cette émission, il nous reste une minute. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie de partager un sujet d'actualité qui lui tient à cœur ? C'est une bonne question.
Il y en a tellement.
C'est
ce que j'étais en train de me dire.
Des sujets écologiques, des sujets culturels ? Un événement qui s'est passé, ça peut être vraiment très régional, ça peut être à l'échelle... de votre école ou de votre quartier ?
Moi, j'ai pas d'idée.
Pas forcément. Est-ce que vous allez venir à la prochaine Comédie du Livre, par exemple, enquêter un peu sur ce qui se passe dans pourquoi le monde pas. De la librairie en ce moment ?
Oui, pourquoi pas.
Ouais, c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Vous êtes déjà allé à la Comédie du Livre ?
Non.
Non,
non, moi non plus. Comme on est ici depuis récemment...
mais vous aussi, vous venez d'arriver.
Ça fait un an et demi, donc...
Ah oui, c'est assez récent, oui. Ouais. Ok, donc ça peut être éventuellement un sujet porteur. Nous, en librairie, en sujet porteur qui vraiment questionne en ce moment, donc effectivement l'IA générative, mais c'est surtout prétexte à repenser la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'un livre, il est composé de plein de métiers avant de pouvoir être lu. Et donc, quel métier va récupérer quel petit bout d'argent et comment va-t-il réussir à en vivre pour continuer à faire vivre les livres ? Nous, c'est la vraie question d'actualité. Avec, bien sûr, l'écologie du livre et comment créer un livre vert, quelque part, même si c'est un peu du greenwashing de dire ça, comment créer un livre vertueux, et d'un point de vue social, sociétal et environnemental, tout simplement. Enfin, bon, c'est un sujet qui me tient à cœur en ce moment.
Oui.
Je crois qu'on a à peu près fait le tour, même si ces sources d'informations dont vous avez parlé, c'est tellement riche, on pourrait en parler pendant des heures. Je vous remercie en tout cas d'avoir joué le jeu.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Et bravo, parce que je crois que c'était votre première fois en radio pour tous les trois.
Ouais.
Ouais. Oui.
Allez, super, merci. N'hésitez pas à partager l'émission et merci pour nos auditeurs fidèles et joyeux toujours. Et à bientôt sur L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain.